La saga de la Maison de Savoie, une chronique de Pierre Cardona.
Chères auditrices et auditeurs, bonjour. Je vous fais découvrir chaque semaine des personnages qui ont fait la richesse de notre belle Savoie. Pour continuer notre découverte de la saga de la Maison de Savoie et après Charles III, elle se poursuit avec Emmanuel Philibert dit Tête de Fer de 1528 à 1580. Il est né à Chambéry le 8 juillet 1528. Il est le fils du duc Charles III et de Béatrice du Portugal. Surnommé Tête de Fer, il devient le 10e duc de Savoie en 1553. Mais il lui faut guerroyer 6 ans pour reconquérir les états perdus par son père. Pour ce faire, il participe à de nombreux combats pour son suzerain, l'empereur Charles Quint. C'est lui qui remporte la victoire décisive de Saint-Quentin, le 10 août 1557, sur le roi de France, représenté ce jour-là par le duc de Montmorency, connétable de France, fait prisonnier. Un tableau est au palais royal de Turin. Alexandre Dumas a également romancé dans sa chronique La Royale Maison de Savoie le récit de cette victoire. En 1558, il remporte pour l'empereur la bataille de Gravelines et l'année suivante, il reçoit le salaire de sa fidélité à l'empereur lors du traité de Cateau-Cambrésis, le 3 avril 1559. Il récupère ses états et épouse Marguerite de Valois, sœur du roi de France Henri II. Retour de l'histoire, Marguerite n'est autre que la fille de François Ier, le roi de France qui avait battu le père d'Emmanuel Philibert et fait annexer la Savoie. Il faut savoir que le roi Henri II meurt lors d'un tournoi donné lors des fêtes de ce mariage. En 1559, le duc, qu'on surnomme parfois le prince de Centieu, doit reconstruire ses états et il remplace le parlement de François Ier par le Sénat de Savoie, véritable tribunal jugeant en dernier recours les affaires venues des châtellenies ou des juges-mages, mais aussi juridiction administrative puissante, s'occupant aussi bien de police que d'économie. Les pouvoirs de ce Sénat sont contrôlés par le Conseil d'État et des secrétaires d'État, véritables ministres. Emmanuel Philibert poursuit le redressement du duché en remplaçant les bailliages par 6 provinces préfigurant le découpage moderne mis en place au XIXe siècle. Le Chablais avec Thonon, le Faucigny avec Bonneville, le Genevois et Annecy, la Savoie propre avec Chambéry, la Maurienne avec Saint-Jean-de-Maurienne et la Tarentaise avec Moutier. Malgré tout, Emmanuel Philibert reste pour les Savoyards le duc qui, en 1562, transfère la capitale à Turin à l'abri de la France derrière les monts. En 1564, il signe le traité de Lausanne et récupère le Chablais entre 1564 et 1566 et les bailliages de Saint-Julien et de Gaillard en échange du pays de Vaud remis aux Bernois. Pendant 20 ans, il construit une armée solide et fait édifier ou renforcer des forteresses comme Montmélian, Fort l'Écluse ou le fort de l'Annonciade. On lui doit également en Piémont d'autres constructions et en Méditerranée le port de Villefranche-sur-Mer. D'autre part, il renforce considérablement la centralisation de ses états et maintient le duché d'usage de la langue française au détriment du latin. Afin de payer réformes, constructions et armées, il augmente les droits de douane aux frontières, s'octroie le monopole de la gamelle et inaugure un nouvel impôt, la taille, venu de France et payable par les propriétaires terriens. Sous son règne, on commence à pouvoir dire que si le duc s'italianise, la Savoie se francise, et si Chambéry périclite, le Palladium et le Saint-Suaire quittent la cité pour Turin en 1578. Le Genevois connaît alors un important essor. Le 15 septembre 1574, il suit l'enterrement de son épouse, inhumée sur le puton rocher de Sacra di Sant'Michele. Elle y rejoint sa sœur Catherine, morte 7 ans avant, en 1536. Emmanuel Philibert laisse son fils Charles-Emmanuel le Grand, un duché si puissant, avant de mourir le 30 août 1580 dans sa capitale de Turin. Ses enfants, Amédéo et Autonne, sont ensuite inhumés à la Sacra des Saint-Michel en Piémont. On y trouve un portrait dans l'ouvrage de Guichenon. Et l'histoire se poursuit avec Charles-Emmanuel Ier le Grand, de 1562 à 1630. Il est né au château de Rivoli, le 12 janvier 1562, sous les meilleurs auspices selon Nostradamus, qui hérite tout exprès par le seigneur de Saint-Siméon de Salon de Croix. Si Charles est le fils d'Emmanuel Philibert et de Marguerite de France, fille de François Ier, on raconte partout que sa sœur Léone, religieuse de l'Annonciade, qui avait fait prière et un vœu solennel au bienheureux aimé de Savoie pour la fécondité et l'heureux accouchement de la princesse Marguerite, ressentit seule le travail de l'enfantement et la duchesse accoucha sans douleur. À 18 ans, en 1580, Charles-Emmanuel devient le 11e duc de Savoie, appelé Charles-Emmanuel le Grand, car il surpasse, selon Guichenon, en piété les Humbert, en générosité les Thomas, en libéralité les Édouard, en grande entreprise et fameuse expédition les Aimé, en bonté les Louis et les Charles, et en vaillance les Pierre, les Philippe et les Emmanuel. En 1582, il échoue par deux fois dans sa guerre contre Genève. Il recommencera une troisième fois. Le 11 mars 1585, il épouse Catherine d'Autriche, fille de Philippe II d'Espagne. Il ne cesse alors de faire la guerre dans l'idée d'agrandir ses états. À la mort de Henri III en août 1589, il prétend à la couronne de France, en pleine guerre de religion. N'est-il pas le petit-fils de François Ier ? Il guerroie deux ans de 1590 à 1592 en Provence, espérant en devenir le comte. Mais, malgré sa victoire à Mons, dont on se souvient encore battue à la bataille de Vinon sur Verdun, il doit regagner Nice vaincu. À son épouse, qu'il accueille à la porte du palais niçois, il dit « Madame, je reviens de l'école ». Il gagne le marquisat de Saluces, mais il doit céder la Bresse, le Bugey et le pays de Gex à Henri IV. En 1597, il perd la duchesse, femme de caractère et épouse efficace. En 1599, il apprend le décès en prison de Jacqueline d'Entremont, épouse de feu l'amiral de Coligny, qui refusait d'abjurer le protestantisme. En 1600, les troupes continuant, Henri IV envahit le duché de Savoie et s'empare d'Annecy. L'année suivante, le château fort de Sainte-Catherine à Viry est détruit par les Français et au traité de Lyon, le duc doit définitivement céder au roi de France les états de la Bresse, du Bugey et du Pays de Gex. En 1602, Charles-Emmanuel attaque une nouvelle fois la cité de Jean Calvin. Dans la nuit du 11 au 12 décembre, les Savoyards sont repoussés et les Genevois font de cette mémorable victoire, baptisée l'Escalade, une véritable fête nationale. Au traité de Saint-Julien, signé le 26 juillet 1603, le duc promet de ne plus attaquer Genève. Allié de Henri IV, il guerroie contre l'Espagne, pays de sa défunte femme, pour la conquête de Montferrat. Après 1610, Charles-Emmanuel signe la trêve de Pavie. Mais après retournement d'alliance, il continue la guerre contre Louis XIII, sans pouvoir toutefois conquérir Montferrat. En 1630, les troupes de Louis le XIIIe et le roi de France en personne sont devant Annecy, qui, placée sous le commandement de Louis de Sales, résiste. Les Rumiliens refusent de se rendre, répondant « Ecapoué » aux sommations ennemies. Finalement, le duc doit accepter le traité de Cherasco qui entraîne l'occupation totale de la Savoie par les Français. Notons que c'est lui qui a eu l'idée de rassembler les corps de tous les défunts de la maison de Savoie et de créer la nécropole du Superga au-dessus de Turin, inaugurée plus tard avec Victor Amédée III. Lorsqu'il meurt à San Savigliano, le 26 juillet 1630, avec un demi-siècle de règne, lui succède son fils Victor Amédée. Nous gardons plusieurs tableaux de ce prince, notamment au Palais royal de Turin, ou comme ce portrait dû à Joanne Crac, accroché au musée savoisien de Chambéry, ou encore le portrait en pied actuellement au Castello Reale des Racconigi. Cette chronique est tirée d'un livre de Michel Germain, président de la Société des auteurs savoyards, écrivain et historien savoyard. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui et surtout, à une prochaine fois.